Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera ce week-end. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. Après le calendrier du déconfinement, Emmanuel Macron précise celui de la vaccination. Elle sera ouverte à tous les adultes à partir du 15 juin. Mais dès demain, toutes les personnes majeures souffrant de comorbidité pourront se faire vacciner. Aucun justificatif à fournir, une simple déclaration sur l'honneur suffira. Le variant indien signalé dans l'Hexagone, 5 cas détectés en Nouvelle-Aquitaine et dans les Bouches-du-Rhône, mais pas de cluster à ce stade, assurent les autorités sanitaires. Nous irons dans le pays où la mortalité liée au Covid est la plus forte au monde. Ce n'est pas l'Inde ou le Brésil, non, c'est la Hongrie où sur place on déconfine dans le déni. L'émotion à Rambouillet lors de l'hommage national à Stéphanie Monfermé, fonctionnaire de police assassinée parce qu'elle servait son pays. Dans ce journal également, l'adieu des 863 salariés Bridgestone à leur usine de Béthune. Le site a définitivement fermé ses portes ce soir. Thomas Pesquet nous a fait un petit coucou depuis sa deuxième maison, la Station Spatiale Internationale. Et puis le foot, 25e journée de Ligue 1 et Marseille qui affronte en ce moment Strasbourg, Stéphane Frangy.
Et c'est la mi-temps, ici 0 partout, assez tristouné au Vélodrome.
A tout de suite Stéphane. La météo, elle restera très agitée demain dans le sud avec de la vallée du Rhône à la Provence, des pluies soutenues accompagnées de coups de tonnerre. Partout ailleurs, le ciel sera partagé entre nuages, éclaircies et averses, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a terminé la semaine dans le rouge, moins 0,53% à 6269 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com. Et puis l'interview éco, dans 20 minutes, l'économie française a progressé de seulement 0,4% au premier trimestre. Peut-on espérer une reprise frénétique dans les mois qui viennent? C'est l'une des questions que posera ce soir Emmanuel Duteil à son invité Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'INSEE.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une bonne nouvelle pour débuter ce journal. La campagne vaccinale tourne à plein régime, comme l'illustrent ces deux records. Plus d'un demi-million de doses injectées aujourd'hui et 637 000 rendez-vous enregistrés sur Doctolib ces 24 dernières heures. On pique donc à tour de bras et ce n'est pas prêt de s'arrêter vu que dès demain, tous les adultes souffrant d'obésité pourront se faire vacciner. Ça, on le savait. Mais la nouveauté du jour, Victor Delande, c'est que la vaccination sera aussi ouverte aux personnes atteintes de comorbidité. Lesquelles exactement, Victor ?
Alors, il s'agit des personnes qui souffrent de maladies chroniques. On pense aux pathologies cardiovasculaires, l'obésité, vous l'avez dit, les diabètes de type 1 et 2, les insuffisants cardiaques, respiratoires ou les malades atteints de cancer. Ça représente près de 4 millions de personnes en France. Ces derniers jours, des médecins et des associations mettaient la pression sur le gouvernement afin qu'il ouvre largement les vannes de la vaccination. Et comme de plus en plus de créneaux sont vacants dans de nombreux centres, le gouvernement a donc choisi d'élargir à ses publics la vaccination. À noter aussi que l'exécutif va plus loin dans les Outre-mer. À Mayotte, la vaccination est désormais ouverte à toutes les personnes de plus de 16 ans sans facteur de risque. La vaccination est aussi possible pour tous les habitants de plus de 18 ans. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ainsi qu'à Wallis et Futuna.
Victor, est-ce que vous pouvez nous préciser le calendrier vaccinal? Parce que là aussi, il y a du nouveau.
Alors, pour faire simple, si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez vous faire vacciner dès aujourd'hui et aucun critère ne vous sera demandé. Si vous êtes soignant, peu importe votre âge, là aussi, vous pouvez recevoir une injection dès maintenant. À partir de demain, donc, toutes les personnes majeures qui ont des maladies chroniques auront accès à la vaccination. Et à partir du 15 mai, toutes les personnes de plus de 50 ans y auront droit. Enfin, plus aucune restriction à partir du 15 juin prochain, comme l'a dit le président de la République. Autrement dit, tous les Français qui souhaiteront se faire vacciner pourront le faire à partir de cette date.
Victor Delande du service Société d'Europe 1. Notez qu'Olivier Véran a saisi la Haute Autorité de Santé au sujet du vaccin AstraZeneca. Objectif, étudier la possibilité de permettre à tous les volontaires, quel que soit leur âge, de recevoir ce vaccin en signant une décharge, comme cela se fait dans certaines régions d'Allemagne. Ce sérum est pour l'heure en France réservé aux plus de 55 ans. On ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il plonge le pays où il est apparu dans une crise sanitaire sans précédent. Le variant indien est désormais en France, c'est confirmé. 5 cas ont été détectés, 3 en Nouvelle-Aquitaine et 2 dans les Bouches-du-Rhône, d'où l'extrême vigilance des autorités sanitaires, Nicolas Feldman.
Oui, et l'enjeu c'est donc de limiter sa propagation. Alors depuis la semaine dernière, tous les voyageurs en provenance d'Inde doivent respecter une quarantaine de 10 jours. Si des cas positifs sont repérés, ils sont séquencés, cela veut dire que l'on recherche la présence ou non de ce fameux variant indien. Alors, 5 premiers cas, vous le disiez, ont été détectés. Tous leurs contacts ont été tracés et pour l'instant, pas de cluster. C'est ce que confirmait ce matin Benoît Elboud, le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, au micro de Stéphane Place.
On ne peut jamais être sûr que le rétro-tracing a vu tout le monde. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que s'il y avait un cluster et beaucoup de cas, on le repérerait par le dispositif de dépistage. Tous les éléments à notre disposition nous permettent de dire que ce variant spécifique venant d'Inde est tout aussi bien contrôlé que le variant brésilien ou sud-africain.
Alors la question maintenant, c'est de savoir si ce variant indien est-il plus dangereux que les autres ? Est-il plus contagieux ? Rien ne permet encore de l'affirmer. L'OMS le classe pour le moment dans la catégorie des variants dits d'intérêt. Cela veut dire qu'il doit être surveillé. Ce que craignent en revanche les spécialistes, eh bien c'est une efficacité moindre face au vaccin, comme c'est le cas aujourd'hui pour les variants sud-africains et brésiliens.
Précision signée Nicolas Feldman. Nous connaissons depuis hier le calendrier du déconfinement. Ce sera progressif, 4 étapes jusqu'à fin juin. Beaucoup trop prématuré pour de nombreux médecins au regard de la situation sanitaire toujours très tendue dans les hôpitaux. Mais si le plan tricolore peut paraître précipité, ce n'est rien comparé à ce qui se passe actuellement en Hongrie, où l'on a beaucoup moins de scrupules pour lever les restrictions. Le pays est pourtant celui où la mortalité liée au Covid rapportée à la population est la plus élevée au monde, plus de 2700 décès par million d'habitants, c'est plus que l'Inde ou le Brésil. Mais cela n'empêche pas le gouvernement de Viktor Orban de déconfiner progressivement. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Budapest. Comment est-ce possible ?
Eh bien parce que le Premier ministre veut aller vite et contre l'avis des autorités européennes, il vaccine avec les sérums russes et chinois. Sa communication est axée là-dessus, si bien que personne n'est conscient de la situation épidémique, surtout pas sur les terrasses des cafés récemment rouvertes.
Nous sommes champions du monde. Alors oui, c'est vrai, je ne suis pas vacciné, mais être dehors en terrasse, c'était nécessaire maintenant.
C'est étonnant d'avoir pris cette décision car le virus circule encore. Mais c'est le choix du gouvernement et on vit dans un monde nouveau, c'est génial.
40% de la population a reçu au moins une dose, c'est jugé suffisant par les autorités, pas forcément par Janoszlawik, l'un des infectiologues les plus écoutés du pays.
En Hongrie, le déconfinement est lié au taux de vaccination. Dans beaucoup d'autres pays, le passeport vaccinal n'est donné que 15 jours après la deuxième dose. Là, ça a peut-être été un peu vite.
Le pays distribue un passeport vaccinal dès la première injection sans attendre la fabrication d'anticorps, une situation qui pourrait amener une quatrième vague, d'autant que les vaccins russes et chinois sont jugés moins efficaces.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Hongrie.
Europe Soir, Julien Pierce.
Il y a une semaine, la France était à nouveau frappée par un attentat islamiste, le sixième en un an, l'assassinat d'une fonctionnaire de police mortellement agressée au couteau par un assaillant radicalisé. Un hommage national a été rendu ce matin à Stéphanie Monfermé, cérémonie présidée par le Premier ministre Jean Castex. À Rambouillet pour Europe 1, Hélène Terzian.
C'est à quelques mètres seulement du commissariat où Stéphanie Monfermé a été assassinée que le Premier ministre prononce un discours solennel. Près du portrait en noir et blanc de la fonctionnaire de police, Jean Castex s'exprime face à ses deux filles, son mari et ses collègues policiers.
Votre collègue travaillait pour cette police qui est le rempart des citoyens contre la violence, la délinquance et le terrorisme. Votre collègue a été assassinée parce qu'elle servait son pays. Parce qu'elle était au service de la France.
Le Premier ministre remet la Légion d'honneur à titre posthume à cette agente administrative qui a officié pendant près de 30 ans dans son commissariat. Une cérémonie suivie sur un grand écran par de nombreux habitants.
C'était très important de venir et de soutenir la famille, soutenir tous nos policiers. Elle était là pour les Français, on devait être là pour elle aussi.
C'était une femme comme vous et moi qui faisait son métier. C'était très digne, c'était très beau. J'ai apprécié le discours du Premier ministre qui a tout dit. Maintenant, derrière, il faut agir pour que ça ne se reproduise plus.
Dans son hommage, le Premier ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à lutter contre les actes terroristes, notamment face au passage à l'acte d'individus isolés et, comme semble révéler l'enquête, au profil de l'assassin de Stéphanie Monfermé.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. En Israël, le plus grand rassemblement organisé depuis le début de la pandémie a tourné au cauchemar. 45 morts après une bousculade géante, un mouvement de foule lors d'un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord du pays. L'une des plus graves catastrophes de l'histoire d'Israël, a réagi le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a décrété un jour de deuil national dimanche. Le soulagement en Haïti, tous les religieux catholiques enlevés au début du mois ont été libérés, dont les deux Français, une sœur et un prêtre, qui sont en bonne santé selon l'institut missionnaire auquel ils appartiennent. Ces sept religieux au total étaient aux mains d'un gang armé qui réclamait $1 million. On ignore si une rançon a été versée. Ils avaient appris avec stupeur en septembre qu'ils allaient tous perdre leur emploi. 7 mois plus tard, ça y est, c'est fini pour les 863 salariés Bridgestone de Béthune. Leur usine a définitivement fermé ses portes ce soir. Une dernière journée pleine d'émotions, mêlée de tristesse et de souvenirs, Maximilien Carlier.
Oui, tout à fait. À la sortie de l'usine, au tourniquet, on voit des salariés tête baissée. Certains ont les yeux rougis, comme Marc, 56 ans.
Douloureux. Ça fait mal. Ouais, j'ai passé presque 30 ans dans cette boîte. J'ai rien d'autre à dire. C'est fini.
Fini, terminé. Les casiers sont vides. Beaucoup d'employés ont dans leurs mains des sacs cabas remplis d'habits de travail.
Il y a une casquette de sécurité, un polaire, une veste.
Ça, ça représente ma vie du boulot.
Une fois que j'aurai digéré et que j'aurai entamé un nouveau processus de reconversion, et à ce moment-là, je les jetterai.
Mais avant, il faudra faire le deuil, m'a expliqué Damien, 54 ans, qui va retourner à l'école en septembre pour devenir boucher. Ils sont environ 500 dans son cas, en reconversion ou à la recherche d'un emploi. Denis Drouet, délégué syndical CFDT.
Nous, on lâchera rien et on continuera à aider les salariés jusqu'au bout. Bon, après, on a obtenu quand même 24 mois de congé de reclassement. C'est un des plus gros PSE de l'industrie de France.
Sauf que ces indemnités de licenciement, cet argent, eh bien, ça va partir vite pour certains employés et ça ne remplacera pas leur travail dans leur usine.
Maximilien Carlier à Béthune pour Europe 1. Amazon n'est pas le bienvenu à La Rochelle, en Charente-Maritime. La demande du géant américain d'implanter un centre logistique de 5 700 m² sur la zone portuaire a été rejetée par le maire de la ville. Jean-François Fontaine explique que ce projet n'est pas en phase avec les ambitions de transition écologique de La Rochelle. Cela fait une semaine maintenant qu'il flotte en apesanteur à 400 km au-dessus de nos têtes. Thomas Pesquet nous a fait aujourd'hui un petit coucou depuis la Station Spatiale Internationale. Le spationaute français est notamment revenu sur les toutes premières secondes de sa mission.
Le décollage, c'était des sensations incroyables, hein, surtout j'avais pas vécu ça depuis 4 ans, un peu différent que le Soyuz, un peu plus doux j'ai trouvé au décollage, mais vraiment si on aime les manèges de foire et les sensations fortes, un décollage en fusée, c'est ce qu'on peut faire de mieux, l'accélération, les vibrations, cette vitesse incroyable, donc ça c'était vraiment un grand moment, et on avait tous un énorme sourire, on riait tous dans la capsule en étant sérieux bien sûr, mais juste parce que les sensations sont phénoménales. C'est un vrai plaisir d'être ici, c'est un peu ma deuxième maison. J'ai retrouvé des amis, j'ai retrouvé mes habitudes. Il y a des choses qui ont changé dans la station, mais il y a des choses aussi qui sont identiques. On a déjà commencé à travailler. Moi, j'ai déjà passé quasiment toutes mes journées depuis lundi. On est déjà parti à 100 à l'heure. On va tous travailler très fort. Et puis, les 6 mois vont passer très, très vite.
Thomas Pesquet avec l'Or d'Autriche pour Europe 1. Le spationaute français qui survole plusieurs fois par jour la forêt amazonienne, le poumon de la planète. Un surnom qui n'a malheureusement plus lieu d'être, vu que ces 10 dernières années, l'Amazonie brésilienne a rejeté plus de carbone qu'elle n'en a absorbé, en raison de la déforestation et du changement climatique. Conclusion très inquiétante d'une étude publiée aujourd'hui dans la revue scientifique Nature. On termine avec le foot, 35e journée de Ligue 1 et ce match que l'on suit ce soir sur Europe 1, direction le Stade Vélodrome où l'Olympique de Marseille est toujours tenu en échec face au Racing Club de Strasbourg, Stéphane Frangy.
Oui, c'est compliqué, 53e minute de jeu ici au Vélodrome, 0 partout donc entre l'OM et les Strasbourgeois, c'est assez compliqué. Marseille a le pied sur le ballon au pointage à la mi-temps, ils étaient à 66% de possession de balles, mais finalement une seule frappe cadrée. Les Marseillais qui ont eu à aller deux occasions chaudes en première période, notamment une frappe à bout portant de Léo Balerdi, superbe parade de Matsels dans les buts strasbourgeois, et puis ensuite ce long coup franc de Dimitri Payet qui avait été dévié de la tête par Gonzalez. Matsels qui avait claqué ce ballon, beaucoup de tentatives en contre côté strasbourgeois, notamment Ludovic Ajorc qui est très actif, qui fait parler son gabarit, son 1m97 pour essayer de bousculer la défense marseillaise. Marseille, ben voilà, qui a un gros coup à jouer ce week-end. Il y a de l'enjeu. Ils ont cette place qu'ils peuvent chipper. participé à Lens. Hein. Il n'y a qu'un point qui sépare les deux équipes. Lens, on le rappelle, qui jouera demain au PSG. Mais Marseille, pour l'instant, ne profite pas de cette occasion qui se présente ce week-end. 54 minutes de jouer ici et un 0 partout. Assez triste face à Strasbourg pour le moment.
Merci beaucoup Stéphane Frangier en direct du Stade Vélodrome où l'on retournera d'ici quelques minutes pour un prochain point sur ce match. Et un mot de basket pour conclure. Monaco a remporté ce soir l'Eurocoupe en battant les Russes de Kazan. Une première depuis 1988 pour un club évoluant dans le championnat de France. La météo, Anissa Haddadi, grande prudence demain dans le sud.
Oui, depuis plusieurs jours, Julien, nous avons une dépression en effet qui apporte pas mal de pluie dans le sud. Et bien demain, des Pyrénées jusqu'à la vallée du Rhône et tout le long de la Méditerranée, les pluies seront soutenues particulièrement dans l'après-midi. Soyez prudents avec des orages qui localement pourront être forts. La neige va aussi faire son apparition, des 1400 mètres d'altitude dans les Alpes et dans les hauts plateaux de l'Aubrac. Ces pluies, elles vont se calmer samedi dans la soirée pour s'évacuer doucement dimanche matin. Après, c'est le vent qui devrait prendre le relais. D'ailleurs, la tramontane va souffler demain du côté du Languedoc jusqu'à 70 km/h. Sur le reste du pays, nous avons, comme aujourd'hui, un ciel partagé entre nuages, éclaircies et averses, en particulier sur la moitié ouest du pays. C'est dans le nord-est, en fait, des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace. En passant par la région parisienne ou encore la Bourgogne, c'est là que le temps restera sec avec des petites éclaircies. Les températures, elles sont toujours fraîches, en dessous des normales, avec 2 à 4 degrés du nord au sud le matin. Dans l'après-midi, nous aurons 11 à Aurillac, 13 à Lyon et Clermont-Ferrand, 16 à Nice, Marseille et Paris, 17 à Metz et 20 pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Je vous invite à rester avec nous parce que dans un instant, vous allez avoir toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Et cette information, l'économie française a progressé de seulement 0,4% au premier trimestre. Peut-on espérer une reprise frénétique dans les mois qui viennent? Eh bien, c'est l'une des questions que posera Emmanuel Duteil à son invité, Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'INSEE. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street clôture en baisse ce soir à la suite de prises de bénéfices. On a suivi notamment Amazon et Twitter aujourd'hui après leurs résultats trimestriels.
Oui, les marchés marquent une pause. Repli de 0,53% pour le Dow Jones à 33 879 points. Le Nasdaq perd 0,85%, 13 962 points. On a donc suivi Amazon après des résultats records au premier trimestre. Les consommateurs privilégient toujours le commerce en ligne malgré la levée progressive des restrictions liées au Covid. Le titre limite la casse, tout petit repli de 0,1%. Ce soir, plongeons en revanche pour Twitter, moins 15%. Les résultats sont solides avec juste une petite déception du côté des utilisateurs actifs. Légère contre-performance qui se paye très cher ce soir. Mais le titre Twitter a décollé de près de 130% depuis un an et le début de la crise.
Les résultats trimestriels des majors pétrolières ont eux aussi été fraîchement accueillis.
Oui, c'est du rouge pour Chevron, moins 3,6%. Les profits ont beaucoup baissé au premier trimestre avec un recul des marges sur le raffinage et des pertes en production dues à la vague de froid aux États-Unis. C'est mieux pour ExxonMobil qui a profité de la remontée des cours du brut, mais là aussi le titre perd 3%. Un mot du baril WTI justement, il cède 2,4% ce soir, 63,43 $ sur le NYMEX.
À Paris, c'est le même scénario qu'hier. Le CAC 40 avait bien démarré la séance, mais Wall Street a cassé l'ambiance.
Les marchés américains ont fait basculer le CAC dans le rouge. Il perd 0,53%, 6269 points. Il progresse tout de même sur la semaine et on a même un gain de plus de 3% sur le mois d'avril. La plus forte hausse du CAC ce soir, elle est pour l'équipementier aéronautique Safran après ses résultats trimestriels. Safran qui maintient ses objectifs annuels et qui monte de 3%. Et puis Saint-Gobain aussi a confirmé ses objectifs, plus 1,2% pour l'action du fabricant de matériaux de construction.
BNP Paribas aussi a signé un bon trimestre, mais la banque clôture tout de même dans le rouge.
Moins 0,8% pour BNP malgré des résultats supérieurs aux attentes. Rien de dramatique puisque l'action a flambé de 20% depuis le 1er janvier et même de 75% environ depuis un an. Ailleurs en Europe, seul Londres résiste ce soir en hausse de 0,1%. Pour les autres, c'est du rouge. Moins 0,1 pour Francfort et pour Madrid. Milan, moins 0,6. Amsterdam, moins 0,4. Et à Paris, le CAC 40, 7,05%. Il termine à 6 259 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de boursier.com et à lundi Claire. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Julien Pouget.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le chef du département de la conjoncture à l'INSEE. Et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que l'INSEE a publié ce matin la croissance pour le compte du premier trimestre. Ce qu'il en ressort, c'est que c'est une petite croissance, plus 0,4%. On peut parler d'une reprise timide. Mais est-ce qu'on peut même parler de reprise en tant que telle, Julien Pouget ?
Oui, ce chiffre de 0,4%, de plus 0,4%, il faut le mettre en perspective. En fait, tout dépend à quoi on compare les choses. Là, on compare les trois premiers mois de 2021 aux trois derniers mois de 2020. Et rappelez-vous, ce n'est pas si éloigné, ces trois derniers mois avaient été marqués notamment par le confinement de novembre. Donc, c'est une croissance relativement faible parce que le trimestre reste marqué par les restrictions sanitaires. La situation n'était pas à la normale pour la consommation, n'était pas à la normale pour le commerce extérieur. Du reste, quand
ce qui explique que c'est plus faible que votre prévision. Votre prévision, c'était 1% de croissance, mais elle avait été faite avant que l'on sache que l'on allait reconfiner partiellement pour une troisième fois.
Oui, ce 0,4 n'est pas une grosse surprise. Nous prévoyons de l'ordre de 1%. C'était fin février, début mars. Depuis, effectivement, le mois de mars s'est avéré plus mauvais, plus dégradé que prévu. Avant tout parce que la situation sanitaire a été plus dégradée. Et de fait, certains départements, 16, puis 19, puis la totalité du territoire ont été soumis à des confinements.
C'est ce qui explique donc qu'il y a cette déception sur le début de l'année. Malgré tout, la consommation repart un tout petit peu. C'est ce que l'on achète tous, c'est ce qui fait tourner un petit peu le pays. Et puis surtout, il y a quand même de sacrés signaux d'espoir pour l'avenir. Déjà, l'activité va repartir, les restaurants vont rouvrir, le tourisme, semble-t-il, en France, s'annonce très bien orienté pour cet été. On va repartir timidement, mais on va repartir, non ?
Tout dépend de l'évolution de la situation sanitaire. Alors, on sait que le deuxième trimestre, il va être pénalisé par le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est un mois de confinement. Alors certes, les restrictions de mobilité ont été moins dures, peut-être, que lors des confinements précédents. Mais ce confinement d'avril, il a un impact également sur la consommation des ménages. Consommation qui est restée quand même très bridée au premier trimestre. Certes, elle a augmenté légèrement, 0,3%, mais elle reste 6 à 7% au premier trimestre, donc en deçà de son niveau d'avant-crise.
Oui, parce que qu'on ait bien conscience d'un chiffre extrêmement important, je trouve, Julien Pouget, c'est que l'activité économique est toujours en recul de 4% par rapport à l'avant-crise. C'est-à-dire qu'on est très, très, très loin d'avoir effacé ce cataclysme.
Voilà, exactement. Il faut deux chiffres pour résumer les choses. À la fois cette progression de 0,4% d'un trimestre à l'autre, mais quand on rapporte à l'avant-crise, c'est moins 4,4%, ce qui est effectivement beaucoup. Et on est encore éloigné du niveau d'avant-crise. Et la consommation des ménages, rappelez-vous, elle a été marquée d'abord en janvier par l'avancée des horaires du couvre-feu, puis ensuite s'est rajoutée en février la fermeture des grands centres commerciaux et en mars les confinements locaux dans les différents départements. Le tout dans un contexte où certaines activités sont fermées depuis octobre. La restauration en salle, les bars, les cinémas, les autres activités culturelles en public.
Et le fait qu'on n'ait pas de touristes qui est aussi un élément important généralement de
Bien
la consommation
sûr.
En France. On va faire un rêve, Julien Pouget, on va fermer les yeux et on va se dire qu'on va être vaccinés tous là dans les semaines ou dans les mois à venir. Si ça se passe et si la vaccination résiste aux variants, est-ce que l'on peut imaginer qu'à la fin de l'année, on ait la plus forte croissance de ces 40 dernières années ?
La croissance, c'est la mesure d'une situation donnée par rapport à une situation antérieure. Donc, le chiffre de croissance de l'année 2021, il sera sans doute élevé parce qu'on part d'une année 2020 très basse. Rappelez-vous, 8,2% en 2020 sous l'année 2019. Donc, a priori, sauf si on avait une quatrième vague automnale, le chiffre de croissance de 2021 sera positif, voire très positif. Après, tout dépend à quel point.
Mais il y a des signaux qui peuvent nous laisser penser que ça peut être positif. Quand on regarde ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, la croissance est quatre fois plus importante, même si on compare en rythme trimestriel, quatre fois plus importante que ce qui se passe chez nous. Pourquoi ? Parce qu'ils sont vaccinés, parce qu'il y a un plan de relance très efficace, et tout ça, ça semble faire repartir la machine.
Alors, sur le début de l'année, sur le premier trimestre dont on parle, les différences de croissance, elles viennent surtout des différences de restrictions sanitaires. C'est-à-dire que les restrictions ont été moindres, quand on compare les indices, hein, aux États-Unis qu'en Europe notamment. Mmh. Inversement, il y a eu beaucoup de restrictions en Allemagne et l'Allemagne a vu son produit intérieur brut diminuer de 1,7% sur le trimestre.
Parce qu'ils avaient mieux résisté que nous au début de l'année dernière aussi. C'est ce qu'ils n'avaient pas eu le même confinement que nous. C'est ce qui explique ce différentiel entre nos deux pays.
Sur le premier trimestre, ce qui explique le différentiel, c'est le fait que les restrictions sanitaires ont été plus difficiles, hein, plus dures en début d'année 2021 en Allemagne qu'en France. Mmh. Mais vous me direz, c'était le contraire au trimestre d'avant.
C'est pour ça.
Où nous avons connu le deuxième confinement en novembre, là où les restrictions étaient moindres en Allemagne.
Mais malgré tout, j'ai l'impression que vous avez peur de pouvoir imaginer que ça puisse être bien demain. C'est parce qu'on a eu tellement de déconvenues ces derniers mois. À chaque fois qu'on s'est dit, allez, ça y est, on met le bouton vert et ça va fonctionner. À chaque fois, il y a eu la deuxième vague, la troisième vague, etc. etc. Aujourd'hui, il y a encore trop d'incertitudes pour être confiant. C'est ça que vous me dites ?
Là, tout dépend, encore une fois, comme depuis le début. Hein, le déclencheur de la crise, il est sanitaire. L'évolution de la conjoncture économique, elle est fonction de la conjoncture sanitaire. Donc effectivement, dans le monde que vous avez décrit, que vous avez souhaité, où tout le monde, où grande majorité est vaccinée et où on peut rouvrir, la croissance, elle sera sans doute très élevée à l'été, à l'automne.
Eh bien voilà, c'est ce qu'on va espérer. En tout cas, un grand merci Julien Pouget. Je rappelle que vous êtes le chef du département de la conjoncture à l'INSEE. Un grand merci d'avoir été notre invité ce soir. Nous, on se retrouve lundi 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. On vous retrouvera également lundi à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag et vous vous intéresserez aux fonds d'investissement. On en parle souvent, mais qui sont-ils réellement ? Vous en parlerez avec votre invité, Virginie Morgon, la présidente du directoire d'Euroseo, l'une des plus grandes sociétés d'investissement en France. Restez avec nous dans un instant. Le foot, on va retourner au stade Vélodrome où il n'y a toujours pas de but entre l'OM et Strasbourg. A tout de suite sur Europe 1. 22h29 sur Europe 1 et non pas de une de la presse ce soir, pas de journaux en kiosque le 1er mai, c'est férié. En revanche, il y a du foot ce soir, match d'ouverture de la 35e journée de Ligue 1, Marseille-Strasbourg au stade Vélodrome où l'on vous retrouve Stéphane Frangy avec un score toujours nul et vierge.
Ah, ça ne veut pas, décidément, 69e minute de jeu et le temps qui commence à s'égriner assez rapidement pour les Marseillais qui poussent. Ils nous ont vraiment pris l'ascension. Hein. Ils sont vraiment dans le camp des Strasbourgeois qui sont retranchés, qui jouent très très bien le coup. Les Alsaciens, il y a deux rideaux, cinq défenseurs notamment, et ils attendent et ils acceptent hein, finalement les assauts. Marseillais qui tente le coup, elle est encore là, ce centre venu de la droite vers la gauche. On va chercher la tête de Payet. C'est bien capté encore une fois. Matsels, le gardien strasbourgeois qui est impeccable ce soir. Il a eu notamment trois parades décisives et il permet aussi de maintenir ce score 0 partout entre Marseille et Strasbourg.
Merci beaucoup Stéphane Frangy en direct du stade Vélodrome pour Europe 1. Bonsoir Sana Blanger.
Bonsoir, comment ça va ?
Très très bien, 3921 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
À tout à l'heure.